parler de la carambole du programme de l'année prochaine, c'est-à-dire des mois de septembre à juin 2016, septembre 2016 à juin 2017. Les lieux d'abord, je vous donne les dates et les différents lieux. En septembre, le 28 septembre, cela se passera ici, à Rieux. Le 26 octobre, à Carbonne. Il y aura peut-être une conférence le 4 novembre, une conférence supplémentaire à Montesquieu. Le 23 novembre, à Rieux. Et comme d'habitude, au mois de décembre, il n'y aura pas de conférence. Nous laissons les fêtes de Noël tranquilles. Le 18 janvier, il y a l'Assemblée Générale de la Pupambole qui aura lieu à Rieux, à la mairie de Rieux. Le 25 janvier, ce sera à Montesquieu. Le 22 février, à Carbonne. Le 22 mars, à Montesquieu. Le 26 avril, à Rieux. Le 24 mai, à Carbonne. Et le 28 juin, à Montesquieu. Vous trouverez toutes ces dates sur le site de la Pupambole de toute façon. Alors, les thèmes que nous pensons vous proposer, bon, ils vont être affinés, les dates vont être données. Il y aura du jardin à l'assiette de Jacques Barbet, de l'association Jardin d'Arise, Jardin autrement en Arise-Lay. Il y aura une conférence sur, peut-être une conférence sur le TAFTA ou le traité avec le Canada. Il y aura une conférence de Dominique Codero sur Dubicam au trou noir. Une conférence de Christian Valade sur la décroissance. La présentation à une conférence de personnes du Barreau des Belles, qui est un groupe de cirque. Il est prévu une conférence sur les agaves, qui sont une variété de cactées, par Léon Rogez, que vous devez connaître, puisque c'est lui qui avait fondé l'insectarium à Rieux, qu'il avait mis en place. Quelqu'un de très très chouette. Voilà en gros les différents thèmes que nous allons vous proposer, qui seront donc sur le site, avec les dates. Ce soir, les personnes qui sont venues, qui ont accepté de faire la conférence, vont vous parler du LM. Alors, il y aura Pierre Subra, qui est retraité, mais surtout pilote du LM, et inscrit au club du LM de Saint-Girons, qui va vous parler des ULM et vous présenter un petit film sur l'histoire des ULM, si je ne me trompe pas. Michel Durand, qui est instructeur à Bion, ULM, et Philippe Prévost, qui est un industriel, concepteur du LM, Sky Ranger, excusez la prononciation, je ne suis pas anglophone, et Ninja. Voilà, je vais laisser la parole à Pierre Subra, mais je rappelle d'abord que le déroulement classique de la Pupambole est 3/4 d'heure de conférence, 20 minutes de questions, ça vous le savez, et surtout la troisième mi-temps, c'est-à-dire un repas partagé qui vous attendra à côté quand les deux premières parties seront terminées. Bonne soirée. Merci.
Bon. Je m'équipe pour 2 minutes. Ça marche? Ça marche pas?
Non. Change de bouton.
Ça marche? Bon, ça va.
Et dans la poche, oui.
Tout le monde signé aujourd'hui. Ça signe. Bon, moi je vais vous parler 30 secondes d'un ULM qui est au-delà d'un sport pour les jeunes.
Enlève le micro.
Oui.
Qu'est-ce que j'enlève?
Parle fort.
Oui, ça marche.
Non. Enlève le micro. Ça marche pas bien.
Ça marche mieux si je parle sans le micro.
Comme ça?
Voilà.
Bon.
C'est la moustache
qui gêne. Bon, voilà, vous parlez de l'ULM. C'est un sport mais au-delà du sport, pour les jeunes, il y a un intérêt socio-éducatif, car on apprend à raisonner avec les ULM en rapport avec les personnes, etc. Et ensuite, un métier. Cependant, les jeunes, aujourd'hui, demain, ils passent le brevet, et d'autres, pour le bac, bon, ben, ils ne sont pas là. Donc, il va falloir que vous leur fassiez la commission. Ce qui fait que l'ULM, on peut le pratiquer à tout âge, il vaut mieux le choisir assez jeune, pas trop tardif, ce que j'ai fait, bon, c'est l'inverse. Donc, je m'y suis mis tard, et il faut choisir un bon instructeur, calme. Et donc, ça a été mon cas avec Michel Durand, qui, lui, m'a autorisé lorsque, après quelques heures de formation, il m'a dit « bon, ben, tu pars ». Mais je me disais « ça va taper là-dedans avant de partir tout seul ». Eh bien non, c'est comme si j'étais à côté, je suis parti comme si j'étais à côté et je me suis posé sans aucun problème. Il vaut mieux quand même s'y mettre jeune, comme ça on a davantage de temps à y consacrer. Alors je vais passer la parole à Michel Durand, qui était donc mon instructeur, et ensuite à M. Prévost, qui lui est concepteur d'avion, d'ULM, pardon, et ces appareils ont été plusieurs fois champions du monde. Donc vous allez connaître la construction d'un appareil et surtout la façon dont on apprend à être pilote ULM. Voilà, alors Michel Durand, c'est à toi. Alors je crois qu'il va falloir que tu parles aussi fort que moi.
Bon, je vais essayer.
Voilà.
Il y avait un programme, bon, on va le faire au fur et à mesure. Donc on a déjà parlé donc d'ULM.
Oui, qui veut tout alors, simplement dire.
Il était assez branché.
Oui. Ah, ok. Celui-là.
Ah, ok.
1, 2, 3.
Il faut le mettre en route là.
Voilà. 1, 2. Ouais. Je n'ai pas trop l'habitude de parler ce genre de
gadget.
Le chausser comme des lunettes et comme ça, c'est parfait.
C'est parfait. Bon.
Mais voilà.
C'est bizarre d'entendre sa voix. Donc on parlait d'ULM, mais déjà, savoir ce que ça veut dire ULM, ça veut dire, c'est une abréviation donc de ultra léger motorisé. Et c'est pas un avion, donc on va voir la différence entre un avion et un ultra léger motorisé. Un avion, c'est surtout un engin volant, mais qui est certifié, contrairement à l'ULM, qui n'a pas de certification aussi poussée que l'avion. Et ça va amener à forcément un tarif beaucoup plus élevé. Si on veut pratiquer de l'aviation légère, classique, par rapport à l'ULM. Cependant, l'ULM a une limitation, déjà parce que c'est qu'un deux places. Un avion d'aéroclub, on peut avoir aussi bien des deux places, des quatre places, et c'est un peu pour ça que les gens vont se diriger peut-être un peu plus vers les avions, à condition qu'ils aient des moyens un peu plus importants. Et ensuite, eh bien, bon, ceux qui ont un peu moins de moyens vont aller plutôt vers l'ULM. Alors, dans les ULM, il y a plusieurs familles. Il y a ce qu'on appelle les ULM multi-axes, ou trois axes, on va dire. Ce sont les plus proches des avions. C'est-à-dire que si on n'est pas du métier, sur un parking d'aéroclub, on ne fera pas trop la différence aujourd'hui entre un avion et un ULM. Ensuite, il y a une autre façon aussi de pratiquer l'ULM, c'est dommage qu'on n'a pas la photo là tout à l'heure que tu avais. Il y a ce qu'on appelle les pendulaires. Donc vous avez une formule dite pendulaire, c'est-à-dire qu'ils ont un grand triangle de toile dessus. Et on pilote cet engin à partir de la nacelle qui est dessous en la déplaçant. Ensuite, il y a une autre classe, il y a les paramoteurs. Donc au lieu d'avoir une espèce de triangle rigide, on a une voile qui ressemble aux voiles de parachutistes. Et on a un petit moteur soit dans le dos, soit on l'est aussi sur un espèce de chariot avec des roues. Donc on a un spécialiste qui va nous parler de cette classe. Ensuite, il y a, qu'est-ce que j'oublie ? Les hélicoptères. Aujourd'hui, on a une nouvelle classe, l'ULM. Donc, ce que je vous disais, voilà, on va dire l'ULM, c'est celui qui se promène en bas, en jaune, qui est en train de plonger. Ça, c'est ce que je disais, les pendulaires. J'ai oublié le ballon.
Bon, il n'y a pas encore une paupière. L'hélicoptère vient de rentrer dans la famille des ILM. Bon, c'est la formule la plus chère, on va dire, dans le pilotage, dans la famille ULM. Alors, qu'est-ce qui va aussi différencier la différence entre un avion et un ULM? La formation est quasiment la même. En aviation, on va dire, on a besoin de minimum de 50 heures d'instruction pour arriver à un pilotage correct. C'est-à-dire qu'il y a 30 heures qui va se faire avec un instructeur et 15 heures en vol solo, c'est-à-dire on va partir tout seul faire des navigations. Dans la formule ULM, on n'impose pas un minimum de formation. C'est laissé à l'initiative des instructeurs de dire si quelqu'un est capable de seulement 10 heures, ou 20, ou 30, ou 50, ou voire plus. Donc c'est la responsabilité de l'instructeur. Donc on n'a pas la même contrainte et on ne peut pas savoir exactement quel est le budget qu'il faudra prévoir. Parce que quand on fait une activité, ben on se dit, est-ce que je peux mettre 1000 euros, 5000, 10 000 ou plus. Par contre, si on veut apprendre à piloter, on sait dès le départ que ça va coûter très cher. Donc très cher, ça veut dire qu'une formation d'un pilote d'aéroclub, s'il ne part pas avec un budget de 10 000 euros, il n'aura jamais son brevet. Donc c'est pas, je pense, à la portée de la première bourse. Par contre, en ULM, eh bien, l'heure de vol, pour donner un exemple, en règle générale, c'est à moitié prix. Si une heure de vol d'avion coûte entre 120 et 150 euros de l'heure, un ULM, ça va se situer entre 50, 60, je ne sais pas combien tu payes à Saint-Jérôme.
60, moins 8% si on fait 12 heures par an.
Voilà, donc c'est quand même un peu plus abordable. Ça, c'est dans la formule, on va dire, où c'est deux machines pratiquement identiques, c'est-à-dire un Cessna, pour ne pas le citer, qui est un biplace, et vous avez le même à côté, ben les avions que font Philippe, un Sky ou un Ninja. On peut comparer ces deux machines parce que dans tous les cas, c'est deux places. Alors, une chose qui fait aussi la grande différence, c'est que ces avions d'aéroclub, il y a des contrôles qui sont très rigoureux, il y a des pièces qui sont très chères. Un petit exemple, là, surtout pour les messieurs qui sont plus techniques peut-être que les dames, une bougie d'avion, ça vaut 30 euros. Une bougie du LM, ça vaut 4 euros. Pourquoi ? Parce que c'est la même bougie que vous utilisez sur votre tondeuse ou motoculteur. Donc, vous voyez déjà, dans une première pièce, on a un coef pratiquement de 10. Pareil pour le filtre à huile, pareil pour l'huile, la quantité d'huile de moteur d'avion. C'est entre 8 et 10 litres. Sur un ULM, ça ne dépasse pas 2 litres, 3 litres, on va dire. Donc tout ça fait que le coût, le prix de l'heure de vol, eh bien, est lié à ce qu'on fait dans un aéroclub. On le fait deux fois plus cher. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut vous raconter sur les ULM? Qu'est-ce que j'oublie là, les spécialistes?
Qu'est-ce qu'on a au niveau de la formation?
Alors oui, ah oui, la masse, voilà. Ce qui va aussi définir aujourd'hui pourquoi un ULM et pourquoi pas un avion. Alors, un ULM, ça ne peut pas dépasser 450 kg en charge. On a une petite dérogation si on a un parachute. Alors ça, le parachute, c'est quand même un engin de sécurité que n'ont pas la plupart des avions. Les avions d'aéroclub sont très très rares, ceux qui sont équipés d'un parachute qui sauve l'ensemble. Pratiquement tous les ULM, aujourd'hui, trois axes, ont des parachutes, c'est-à-dire que si vous avez une collision, quelque chose qui se passe très très mal, vous tirez sur une poignée et tout l'ensemble descend relativement doucement pour se poser. Et sans... Bon, on peut sauver donc les personnes, la machine risque d'être un peu abîmée. Donc 450 kg ou 472 si on a un parachute, ça veut dire que techniquement, aujourd'hui, ben, les gens essayent de faire des ULM qui sont à vide à 300 kg, voire moins s'ils sont performants. Performant dans le travail de la masse. Donc, ça veut dire que si vous êtes deux, si vous prenez deux personnes de 5 kg, eh bien, on s'aperçoit qu'on n'a plus grand-chose pour mettre de l'essence. Donc, c'est là le problème. Donc, il faut soit faire le régime, il paraît que c'est très bon, c'est ce que nous disent toujours les docteurs, faites le régime. Donc, ça peut être aussi une bonne idée pour faire de l'ULM, pour nous, les retraités. Voilà. Donc 450 kg... on arrive à soit à 306 kg à vide, alors que sur un avion, il n'y a pas de masse maximum ou minimum, on peut faire ce qu'on veut. Mais forcément,
on prend le même ULM, le même avion, eh bien, l'avion va peser deux fois plus. Ce qui explique aussi qu'il est bien plus cher. Ensuite, quels sont les... si, j'ai oublié un autre paramètre important. Un ULM doit être capable de maintenir la vitesse minimum de 65 km/h. S'il fait 70 km/h en vitesse minimum, il ne peut pas être homologué. Bon, donc là, c'est ça, hein, 65. Donc un avion, en principe, ça se pose plutôt un peu plus vite. Alors qu'est-ce que c'est qu'on appelle la vitesse minimum? Eh bien, c'est la vitesse à partir de laquelle l'avion ne vole plus et il va descendre. Donc quand on va se poser, eh bien, on va aller chercher cette vitesse un peu à ras du sol et il faut toucher le sol à ce moment-là. Et c'est là qu'il faut un peu de dextérité pour arriver à poser soit un avion, soit un ULM. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire sur les ULM? Parce qu'il y a, d'abord, est-ce que vous avez des questions là-dessus?
La consommation, je crois, non mais...
Alors, la consommation, bonne question.
Ah oui, la puissance moteur.
Voilà, et la puissance, voilà. Donc, on va y venir. Alors, la consommation, en règle générale, c'est lié à la puissance du moteur. Les ULM, ça part de 60 chevaux jusqu'à 100 chevaux. On ne peut pas dépasser 100 chevaux. La plupart des moteurs sont de la même origine, c'est-à-dire, c'est un fabricant... d'origine canadienne, c'est fabriqué en Autriche, ça s'appelle Rotax, et c'est un des plus grands groupes de mécanique, puisque Rotax, c'est Bombardier, c'est Evinrude, Johnson, les Skidoo, enfin, ça fait un consortium de moteurs énorme. Donc ces moteurs sont fiables, ils consomment donc entre 15-20 litres d'essence à l'heure. Alors, attention, l'essence, c'est de l'essence automobile. L'avion utilise de l'essence avion. Différence, le prix. Une essence, un litre d'essence, on va dire, de la 98, vaut, je ne sais plus, 30, 35, 40. L'essence avion, c'est 2 euros. Le même avion, on va prendre deux biplaces, l'ULM et l'avion. Bien, pour faire les mêmes performances, l'avion va consommer entre 30 et 35 litres. Donc, 35 litres à 2 euros le litre. Eh bien, ça fait déjà beaucoup plus cher. Et on utilise de l'essence auto, c'est-à-dire que vous pouvez aller, sauf, on déconseille, là, c'est, les spécialistes me diront pourquoi, on déconseille l'essence E10, parce qu'il y a 10% d'alcool. Et l'alcool, comme tout le monde le sait, ça accepte l'eau. Sinon, on ne mettrait pas de l'eau dans le Ricard. Hein, c'est correct. Et donc, l'eau détériore tout ce qui est... caoutchouc ou même le métal, parce que l'eau va s'intégrer dans l'alcool et va abîmer. Donc on déconseille aux utilisateurs du LM de mettre autre chose que de l'essence 98, qui théoriquement n'a pas d'alcool. Ensuite, question, qu'est-ce qu'il y avait? Consommation, c'est fait. Philippe,
l'autonomie.
Alors, l'autonomie. Alors, gros sujet, l'autonomie. Pourquoi? Parce que l'autonomie, si on veut être vraiment rigoureux, on ne pourra pas dépasser 450 kg. C'est-à-dire que l'essence, l'avion, le tout complet, ne doit pas dépasser 450 kg. Donc si on fait marche arrière, il faut trouver deux passagers. Donc on prend deux légers. Donc si on prend, on va dire, standard, 75, puisque c'est à peu près la norme, et 77, je crois. Dans les avions de ligne, on prend 77 kg. Donc ça nous fait déjà 150 kg. Donc il va rester plus grand chose pour mettre de l'essence. Et souvent, quand on a deux passagers, on va dire d'un poids standard, eh bien on va se limiter à 1h30, voire 2h de vol. Alors, ça c'est si on ne veut pas dépasser la règle. Personnellement, je l'ai malheureusement souvent dépassé, pour des raisons techniques, c'est-à-dire j'ai fait Muret, Brazzaville en ULM, aller-retour. En plusieurs jours. Et quand on a, je vous rassure, ça met 5-6 jours. En gros, ça fait 50 heures de vol. Là, quand on a commencé à peser, on a eu peur, parce que le propriétaire de cette machine pesait ses bons 100 kilos, moi mes petits 80, et on s'est aperçu qu'on ne mettait quasiment plus d'essence. En plus, on a pris du matériel de secours, des pneus, des bougies, plus nos effets personnels, et on a dépassé allègrement la masse autorisée. Alors qu'est-ce qu'on a en cours? Eh bien, si on a un accident, c'est comme un automobile. Si vous êtes en surcharge, si vous avez une voiture qui peut supporter tant de poids et que vous mettez le double, on voit ça tous les étés sur les péages, les gens qui se font arrêter, eh bien, vous n'êtes pas couvert par l'assurance. Donc c'est simple, si vous dépassez la masse, là, on peut dépasser la vitesse parce qu'on n'a pas de radar qui sont là pour nous pénaliser, contrairement à l'automobile. Donc là, on est obligé de limiter la quantité de carburant. Donc ça peut être une heure et demie, deux heures. Nous, quand on est parti, on avait 6 heures d'autonomie. Mais voilà. Alors, les machines, très bien de parler de la sécurité. Alors attention, il faut savoir que dans la famille des ULM, il y a une autre famille qui se trouve entre l'ULM et l'avion. Et on appelle ça les EELA. Donc c'est un mot d'origine européenne, Light Aircraft, qui vient des Américains. Eux, ils appellent LSA, donc Light Sport Aircraft. Donc c'est une classe 600 kg. Donc là, ça permet d'aller jusqu'à 600 kg. Et ces machines, la plupart des machines qui sont ULM, sont capables de tenir 600 kg. Parce que le risque, et vous avez bien fait d'en parler, c'est que si vous surchargez un ULM, s'il n'a pas été étudié pour tenir cette masse, ça peut donner des conséquences graves. Donc, on certifie les machines, on leur met un peu plus de charge, et quand on les essaye, il y a des essais de fatigue, il y a des bureaux d'études qui font des calculs, et ensuite, on peut faire homologuer sa voilure, disant, ben, celle-là, elle peut tenir 600 kg. Et donc la machine dont je vous parlais a été étudiée pour tenir 600 kg. Donc on savait que jusqu'à 600 kg, on était encore dans les normes au point de vue sécurité de la structure. Mais par contre, s'il y en avait eu un incident, on aurait été mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire ?
Pour naviguer, comment on fait pour naviguer ?
Alors comment on fait ? Ben, là, pareil, ben, bonne question, parce que pour naviguer, vous êtes comme un avion. Ben, on navigue de la même façon qu'un avion. Alors comment on navigue un avion ? Eh bien, il faut d'abord avoir une carte. Il faut d'abord apprendre, bien sûr, à savoir tirer un trait, relever un cap, trouver la distance. Sur cette ligne, on va trouver des repères, donc des distances. On sait qu'on va arriver à tant de minutes au pont qui est sur la Garonne ou sur le Tarn, par exemple. On a un autre repère et on navigue comme ça. On a trouvé son cap. Ensuite, on explique comment on va calculer quand il y a du vent, ben, on est pénalisé, soit on va plus vite, soit on va moins vite, soit on est déporté du trait. Donc ça s'apprend. Donc ça fait partie de la navigation. Or, aujourd'hui, on a comme dans la plupart des cas des nouvelles voitures, on a des GPS. Alors, il y a le pour et le contre. C'est-à-dire qu'on se laisse bercer par la facilité du GPS, mais un GPS, ça peut tomber en panne. C'est rare, mais ça tombe en panne. Soit parce qu'on a oublié de rebrancher ou de mettre la pile, ça arrive. Donc on impose à tous les pilotes du LM, comme les pilotes d'avion, c'est obligatoire d'avoir une carte à jour, c'est-à-dire une carte aéronautique, sur laquelle il y a toutes les zones. Et quand on ouvre une carte aéronautique, on a peur, parce qu'on se dit, mais on pense qu'on peut aller n'importe où dans les airs. Non, on ne peut pas aller n'importe où. Donc il y a des réglementations, ça fait partie de la formation. Donc on navigue au cap, à la montre, et si on a les moyens, on se paye un GPS. Et aujourd'hui, pratiquement tout le monde, même sur un téléphone, on peut naviguer avec son GPS. Oui.
Et pour se poser, où est-ce qu'on se repère ? On peut se poser n'importe où ?
Non. Alors en aviation, c'est sûr, non. On ne peut pas se poser en dehors d'un aérodrome. Sur un ULM, on peut se poser sur des pistes classées ULM. Alors vous avez des pistes qui sont classées avion, qui peuvent être classées avion plus ULM. Vous avez des pistes qui sont interdites aux ULM, Blagnac par exemple. Ben, pour se poser à Blagnac en ULM, c'est quasiment impossible. Il faut demander une dérogation. Et ensuite, vous avez un propriétaire qui peut vous autoriser à vous poser avec votre ULM. Mais il faut avoir l'accord du propriétaire. Vous ne pouvez pas vous poser dans n'importe quel champ. Par contre, c'est beaucoup plus facile de faire homologuer une piste ULM pour soi ou pour ses amis. Si vous la faites homologuer, il faudra dire quelle est la distance, qui peut venir. Vous devez tenir un cahier sur lequel vous marquez « Monsieur un tel est venu tel jour avec telle machine à telle heure, il venait de là, il allait là ». Donc ça, c'est obligatoire, parce que le registre de l'aérodrome, ça, c'est important. Donc on ne peut pas se poser n'importe où. Alors, je vais dire que ça va être lié aux performances de la machine. En règle générale, le minimum, on va dire le minimum syndical pour une piste, c'est entre 250 et 300 mètres à plat. On peut très bien trouver des pistes inclinées comme ça, ça arrive. C'est un sport que pratiquent certaines personnes ici qui vous expliqueront. On adore se poser dans des pistes ultra courtes, mais en montée. Donc ça, c'est une technique spéciale. Pour les pilotes avions, il y a un brevet spécial pour se poser, par exemple, sur la piste de Malais, là, qui était au-dessus, là, comment elle s'appelle ? J'ai oublié le nom. Ballestin, voilà. Donc là, il faut une qualification pour les pilotes avions, et bizarrement, pour les pilotes ULM, qui n'ont pas la formation montagne, on peut aller se promener en montagne et surtout se poser sur des pistes où il faut quand même une certaine connaissance. Donc là, il y a une petite lacune dans la formation des pilotes ULM qui peuvent se poser, par exemple, sur le seul altiport que nous avons dans les Pyrénées, c'est Peyragudes. Donc vous avez des gens d'ULM qui n'ont jamais fait de montagne et qui arrivent fiers et qui ne savent pas dans quel sens il faut tourner, et c'est la catastrophe. Donc on essaye à tous aux instructeurs d'ULM de leur dire qu'il faut quand même un minimum de formation pour aller en montagne. Un étranger, par exemple, là aussi, un pilote anglais, allemand, avec une licence avion, il peut aller se poser à Peyragudes, mais ça n'existe pas, alors, la qualif montagne chez les Anglais. Ah, ils ont quand même des montagnes, oui.
Il y a même des pistes à Rieux.
Oui, il y a des pistes, tout autour, on a plein de pistes ici. Hein. Il y en a une à Rieux, il y en a une Marmousée,
c'est pas trop mal. C'est les Marmousées, donc.
Qui est magnifique d'ailleurs.
Mais...
Ah, c'est pentu. Donc on se pose. Alors la technique de l'atterrissage en montagne, c'est tout bête, ben, on se pose en montant, on s'arrête en haut, on fait demi-tour et on décolle en descendant. Ça paraît simple, mais ça demande un peu de dextérité et ça. Ouais, ça peut. Ouais. C'est très agréable.
Est-ce que le plan de vol est.
Alors, plan de vol. Alors, plan de vol. Bien, bonne question, parce que le plan de vol, en France, on est un des rares pays où, même en aviation générale, comme en ULM, le plan de vol n'est pas obligatoire. Moi, j'ai bossé au Portugal, j'avais amené mon petit avion, ben, tous les jours, si je voulais, il fallait que je dépose un plan de vol. En France, c'est pas obligatoire. Donc, ni pour les ULM, sauf un ULM qui va passer la frontière, là, il faut quand même faire des démarches. Mais beaucoup le font, ils sortent de l'autre côté, ils disent rien à personne. Alors la radio, oui, c'est pas obligatoire. Pour les avions, c'est quasiment obligatoire. Il y a la radio qui est obligatoire, et ce qu'on appelle un transpondeur. C'est-à-dire, c'est un gadget qui émet sur une fréquence un signal qui permet au sol qui est équipé de radar de savoir exactement où vous trouvez. Et aujourd'hui, cet équipement devient de plus en plus sophistiqué, car il donne exactement l'immatriculation et on sait qui passe au mauvais endroit, par exemple, si on passait au mauvais endroit, à quelle altitude, à quelle vitesse on est, ça dit tout. Donc aujourd'hui, on ne peut plus tricher avec ce qu'on appelle les transpondeurs mode S, qui valent cher.
Oui, très cher.
Donc on est obligé d'avoir une radio, les ULM ne sont pas obligés. Le monsieur, par exemple, qui vole à Marmousée ou à Rieux, il peut très bien tourner autour de son terrain, il peut très bien naviguer sans rentrer dans des zones. Il y a des zones où le contact radio est obligatoire. Donc ça aussi, ça fait partie de l'apprentissage. Et ça aussi, c'est des fois un peu plus long.
Et lorsque vous êtes allé à Brazzaville, quelles furent vos étapes ?
Alors, premier jour, c'est l'Espagne. Le deuxième jour, c'est le fin fond du Maroc, à Darla, à la frontière de Nouakchott. Après, j'ai fait Nouakchott, Kaye, c'est au Mali. Bamako, Mali toujours. Après c'est Ouagadougou. Après Ouaga, j'ai dû faire Niamey, N'Djamena, Monsou, c'est encore en Centrafrique. J'ai failli d'ailleurs finir en prison. On va le raconter pour que vous allez voir, c'est marrant. Donc on décolle du Centrafrique et j'avais eu un petit problème technique, ce qui fait qu'il a retardé le décollage. On demande au contrôleur, parce que là aussi personne ne l'a demandé, mais on peut voler jusqu'à le coucher du soleil plus 30. Or, ceux qui ont vécu ou qui ont été en Afrique savent que le coucher du soleil, il est quand même beaucoup plus court. Et en principe, à l'équateur, tous les nuits, 6 heures, il fait nuit, puis ça tombe vite. Et donc, on part, et on n'avait pas l'autorisation de survoler la Centrafrique. Et orage tropical, la nuit qui tombe très vite, et le contrôleur s'était gouré, enfin, s'était trompé d'une heure. Donc, à un moment, la pluie, on prend notre GPS. Le terrain le plus proche, ça s'appelait Berberati. Et on savait qu'en Centrafrique, si on se posait sans autorisation, on finissait en prison.
Donc on s'est dit, on ne va pas rester en l'air, il faut se poser. Il y avait 50 mètres de plafond, c'est-à-dire les nuages très très bas, il pleuvait. Et arrivé en finale sur ce terrain, avec mon petit ULM et mon propriétaire, personne à la radio, et au dernier moment, on découvre que sur le terrain, il y avait des piquets. Il y avait ce qu'on appelle des frises, là, pour interdire l'atterrissage. Il y avait des essieux de camions dans tous les sens. Et heureusement, ce jour-là, cet avion, c'était ce qu'on appelle une aile haute. J'ai oublié de vous dire, dans les ULM, il y a des ailes en haut, il y a des ailes ou en bas. Ou des fois en haut et en bas, ce qu'on appelle des biplats. Et donc là, ce jour-là, j'avais un ULM avec des ailes hautes. Et je vois un endroit, il y a à peu près 200 mètres de libre, et j'arrive à me poser. Et là, on se dit, on a un comité qui va nous attendre. Effectivement, il y a un gars qui arrive, sous la pluie, nous demande qu'est-ce qu'on foutait là. Ça fait 2 ans que la piste est fermée. Et donc il dit, je vous amène à la gendarmerie. Enfin, quand il nous amène, c'est le pick-up qui vient nous chercher, qui nous jette dedans. Et on arrive à la gendarmerie. Et là, évidemment, rapport. Alors, il n'y avait pas d'électricité, donc le gars, il a fini à la pile. Le téléphone ne marchait pas. Et puis on entendait là, les gars qui étaient dans la prison à côté, qui déliraient. On s'est dit, on va finir là. Et puis au bout d'un moment, il nous dit, vous allez soit à l'hôtel, soit au couvent. Et on savait que dans ces pays-là, il vaut mieux aller dans les couvents que dans les hôtels. Et donc, on tombe chez des sœurs africaines. Et puis, on leur dit, vous savez, nous, on est du sud, on est à côté de Toulouse. Ah ben, elle nous dit, nous, on dépend de l'Avor. On avait trouvé un point commun, c'était des sœurs qui dépendaient d'un couvent de l'Avor. Et les sœurs blanches n'étaient pas là, parce que c'était à l'époque le deuxième tour des élections pour Sarkozy. Et donc on nous dit, vous allez dormir là, donc l'hospitalité chrétienne, donc on a dû faire la prière avant de manger, donc on a longtemps qu'on avait oublié qu'on a fait la prière. La nuit se passe impeccable, donc on repart le lendemain matin. Et là, les gendarmes arrivent. Bon, on s'est dit, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? On arrive à l'avion, et là, aux surprises, l'avion était complètement couché comme ça, les roues crevées, une roue crevée. C'était pas un sabotage, c'était qu'il y avait un défaut dessus. Alors il fait venir un premier gamin avec une pompe, il ne marche pas. Le deuxième, à peine, il gonfle. Et nous, il nous tardait de partir parce qu'on les voyait essayer de téléphoner, c'était un dimanche, il essayait de téléphoner aux autorités pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire de ces deux Français qui n'ont pas respecté les règles puisqu'on s'était posé. Et puis il fait dégager la piste, on se dit ouf, on s'en va. Et on part. Et on survole la forêt, là c'est que de la forêt vierge. Hein. Et puis au bout de une heure, deux heures de vol, je lui ai fait à mon collègue, t'as récupéré les passeports? Il me dit non, on les a oubliés. Et j'ai dit, les passeports, ça fait rien. On va aller dans ton pays, parce que lui, ce gars-là, était pilote du président. Donc on savait que quand on s'opposait au Congo, on risquait rien. Mais c'est quand même un peu drôle d'aller si loin, de tomber sur des sœurs qui connaissaient deux choses, Lavore et Lourdes. Elles avaient été à Lavore et à Lourdes. Et en plus de tomber sur... Alors le passeport, on l'a récupéré 2 jours après. On est revenu, alors là, je ne vous dis pas, parce que ça serait trop long. Là, il a fallu voir l'ambassadrice qui dormait, qui n'était jamais là, pour avoir l'autorisation de revenir dans son pays. Et on a dit, on arrive à 3h pétante, et à 3h on était là, mais les gars, on n'a pas arrêté le moteur, on a ouvert la porte comme ça, ils étaient... D'un côté, ils avaient la main tendue, puis de l'autre côté, ils attendaient évidemment le bakchich. C'est l'Afrique, si vous connaissez. On a dit, non, on n'a pas le temps, on s'en va, puis on est reparti, voilà comme ça s'est fini. Voilà. Les joies de... C'est vrai qu'en ULM, par contre, l'avantage de l'ULM par rapport à l'avion aussi, c'est que dans ces pays-là, vous trouverez de l'essence, à condition de partir avec des filtres. Alors, soit la peau de chamois, ça c'est pour les anciens, soit maintenant on a des filtres synthétiques qui filtrent, qui séparent l'eau, le sable et tout. Donc il faut toujours avoir en Afrique. Et alors il y a un truc qui surprend les Africains, parce que dans un ULM, on a une espèce de gadget. C'est un tube en plastique, avec une espèce de bille. On le trempe dans l'essence, on le secoue. Alors ça, excusez-moi les dames, mais cet appareil, on appelle ça une branlette. Bon. Et pour la petite histoire, on a nos secrétaires qui sont charmantes, qui vendent ce genre de gadget, et vous avez des messieurs qui viennent acheter ce tuyau, dit branlette, et qui n'osent pas demander à la jeune fille, excusez-moi, est-ce que vous avez une branlette? C'est sûr que c'est gênant de demander. Donc ce gadget, bon, c'est un siphon, c'est un brevet français, c'est quand même pas idiot, c'est une espèce de bille, qui laisse passer l'essence quand on appuie, comme ça, elle retient, on secoue, et l'essence arrive dans le tuyau, et ça remplit le réservoir. Et les Africains, quand ils voyaient ce gadget, Alors nous, on faisait les imbéciles, on disait qu'on avait le gris-gris, qu'on avait le système. Alors on lui demandait, il y a des piles. C'est... Non, non, il y en a le gris-gris, le patron, c'est tout simple. Tu dis une phrase et c'est pratique. Alors pourquoi c'est pratique? Parce qu'on peut avoir des petits bidons en plastique. Et donc dans l'ULM en question, j'arrivais à mettre 5 jerrycans de 20 litres. Ben, alors il fallait trouver le modèle spécifique qui rentre dans le fuselage sans abîmer les commandes de vol, sans coincer quoi que ce soit. Sinon, on était embêté après pour aller aux pompes. Et donc, on prenait ces bidons, on allait les remplir, on pose le jerrycan sur l'aile, on secoue le tuyau et ça remplit les réservoirs. En avion, on ne peut pas le faire. Il faut 15 jours avant demander des barriques de 200 litres, qu'on a intérêt à vérifier qu'elles soient plombées, parce que vous savez ce qu'ils font les Africains, c'est simple. Si la barrique n'est pas plombée, elle est pleine. Hein. Sauf qu'ils ont pompé 20 litres, ils mettent 20 litres d'eau à la place. Comme l'eau est plus lourde, elle est au fond, donc vous voyez de l'essence. Donc là, quand on n'a pas de jerrycan, enfin de barriques qui sont plombées, on descend le tuyau et on laisse au moins ça de vide pour ne pas pomper l'eau qui est au fond. Ça, c'est des petites astuces de baroudeur. Donc, ensuite...
C'était un Sky Ranger, votre appareil?
Non, c'était... Bah, par contre, j'ai trouvé à Niamey, il y avait un client à Philippe qui avait un Sky, qui était venu de la France en Sky. Alors l'avantage du Sky par rapport à celui que j'avais, c'est que le Sky il peut se poser partout. C'est vraiment le tout-terrain, on va dire. Notre truc là, était beaucoup plus performant, avec des petites roues très rapides. On ne se posait que sur les grands terrains. Et on est quand même un jour, on a encore éclaté un pneu, et on a stoppé des Boeing qui attendaient, pendant que nous, avec notre truc là, avec la roue à plat, on essayait de dégager la piste. Mais le Sky, y a des gens qui ont fait l'Afrique, qui ont fait le périple. C'est une très bonne machine.
Et la traversée pour aller au Brésil, ça c'est
juste... Non, au Brésil, je ne suis pas allé. Hein.
Ah, non,
c'est l'Afrique. J'ai été beaucoup plus loin avec des petits avions. J'ai été 3 fois, par exemple, à New Delhi avec des avions, mais 4 places. Donc ça... Mais c'est des aventures, là aussi.
Il y a même qui fait le tour du monde, il y a pas longtemps, je crois, en ULM. Alors, avec Sky Ranger,
je ne sais pas. Ah oui, Barbier. On peut aller loin.
On peut faire le tour du monde avec...
Oui, bien sûr, bien sûr.
Allez,
au suivant.
Regarde bien le sexe,
il est en haut. C'est bon, ça passe. Donc, j'ai pas l'habitude des conférences, je vais vous évoquer tout simplement l'histoire d'un appareil, le Sky Ranger, qui est mon petit bébé. L'histoire de formation, je suis ingénieur agro, donc vous voyez, ça n'a rien à voir avec l'aéronautique, comme quoi on peut aussi, dans la vie, faire autre chose que les études qu'on a fait auparavant. Le Sky, il est né dans les années 85-90. Moi, j'avais travaillé, bon, fait la coopération à l'étranger, etc. J'avais volé planeur, avion, à la Sbord. Au début de l'ULM, je me suis passionné pour ce secteur. Et les premiers ULM, c'était, pour ceux qui connaissent, il y avait les Widopper, les Quicksilver, etc. C'était des appareils qui étaient extrêmement simples, uniquement avec des tubes de faible diamètre, des câbles de partout, et qui étaient pour moi pas très très ergonomiques. Et je suis parti du constat... de dire peut-être on peut faire un peu mieux. Et donc après l'agro, j'avais fait un an à l'école de commerce de Toulouse et j'avais fait un petit projet d'étude de marché sur une carte de positionnement qu'on appelle dans une étude de marché pour ceux qui connaissent. Sur un axe, on avait la technologie, c'est-à-dire technologie type avion soudé, treillis soudé ou aluminium rivé, enfin les technologies traditionnelles, etc. Ou la technologie ULM qui était tube toile, c'est-à-dire uniquement des tubes percés avec des câbles et une toile cousue comme les toiles de bateau qu'on peut faire dans son garage. Quoi. quand on faisait sur cette carte de positionnement, et l'autre axe, je veux dire, j'oublie l'autre axe, et l'autre axe, c'était le design. C'est-à-dire, un appareil, on avait des appareils soit qui ressemblent donc aux ULM de la génération de l'époque, c'était les Quicksilver, j'en reviens aux Widooper qui étaient les ULM les plus connus à l'époque, soit des appareils qui ressemblent à un avion type Cessna 150, 172. Et il y avait toute une partie de la carte de positionnement qui était vide, c'est-à-dire l'idée c'était faire un appareil qui ressemble à un Cessna. Pour l'époque, moi, l'idée elle partait de là, parce que je voulais sur un Cessna à l'époque à Lasbourne, mais en gardant la technologie ULM, c'est-à-dire une technologie très simple, c'est-à-dire que tout le monde puisse, à la limite, se le fabriquer lui-même ou se l'entretenir lui-même sans connaissance particulière. C'est-à-dire couper un tube, percer les tubes et assembler tout ça avec des boulons qu'on peut éventuellement trouver sur le marché. Et l'idée, donc, c'était conserver cette technologie qui était extrêmement simple à la portée de tout le monde et faire un appareil qui ressemble à un petit avion du type petit Cessna, voilà. Et le Sky Ranger est né de cette idée-là, au fond d'un garage à Montauban, aidé d'un ami qui était un très très bon... Il était professeur au lycée de Cahors, Marcel Fornet, qui m'a aidé, lui, pour toutes les études, évidemment, tous les calculs basiques. Il avait un tout petit logiciel à l'époque de RDM, de résistance des matériaux, qui contenait à l'époque sur une disquette, les petites disquettes de 1,44 mégas. Et la première étude du Sky a été faite sur ce petit, avec ce petit logiciel qui était, bon, pour ceux qui s'intéressent, c'était l'Université du Mans, et qui a beaucoup évolué, qui est toujours utilisé. C'est un logiciel de RDM qui est vraiment très très simple. Le premier donc au fond du garage, donc le prototype, le premier proto est né. À partir de là, donc, on a fait un deuxième exemplaire pour tester, pour faire les essais en vol. Et ça s'est fait uniquement donc avec un dossier de calcul, et on est parti directement aux essais qui étaient à côté de Montauban, dans cette fond, pour le premier appareil qui était le premier prototype. Voilà. Donc voilà l'idée de base, c'était faire un appareil qui était extrêmement simple et à la portée de tout le monde au niveau technologique. Voilà, c'était l'idée de base, c'était ça. Qu'est-ce que je veux dire ? Au niveau de la conception après, pour la mise en marché, ça a été un peu plus compliqué. Là, j'ai eu l'avantage d'être à Montauban, c'est à côté de Toulouse. On a des écoles d'ingénieurs à Toulouse. Et donc, bon, par des relations, j'ai été introduit bon, auprès de l'ENSICA et de SupAéro, où on a poussé pas mal le dossier de calcul et les essais sur les pièces principales. De là est né donc, le premier appareil qui allait servir, si vous voulez, à la fabrication, à l'industrialisation. Alors, quand on dit industriel, moi je ne suis pas industriel en tant que tel, donc j'étais le concepteur à la base du Sky, puisque après c'est une entreprise qui s'appelait Synergie, qui était dans le nord de la France, à laquelle j'ai cédé les plans, et qui a elle-même fabriqué l'appareil. L'appareil n'a été jamais vendu clé en main, c'est-à-dire monté... les appareils, vous montez comme dans une voiture en mettant la clé dedans. Il a toujours été vendu, le Sky, sous forme de kit. C'est-à-dire que les gens, même aujourd'hui encore, achètent un Sky ou un Ninja, ils reçoivent quelques paquets en carton, c'est déjà préassemblé, ils se montent comme un mécano. Alors certes, il y a pas mal de travail, il faut être bon bricoleur quand même pour arriver au bout. Mais ça reste encore aujourd'hui dans les appareils, je pense, les plus simples et les plus rapides à monter. Donc voilà comment est né l'appareil au départ, le Sky Ranger. Ce que vous voyez là, c'est le Ninja, et à côté, c'est une ex-copie. Sur lequel on s'est battu, c'est la Numan. Celui-là, ça ressemble au Sky Ranger. Ça, c'est le Ninja. La Newman c'était fabriqué en Inde. Au départ, ça a été une copie. On s'est battu un peu sur les brevets. Et j'ai réussi à protéger. Ils ont fait quelques modifications. Et puis, on a trouvé un terrain d'entente. Voilà. Bon, que dire de plus sur la conception ensuite pour au niveau industriel, c'est-à-dire pour lancer l'appareil sur le marché. Il y a trois phases que connaît Michel ou une autre personne ici dans la salle, qui sont trois étapes principales. Un, j'en ai déjà parlé, c'est tout le dossier de calcul. Il y a un dossier de calcul qui, bon, je ne l'ai pas amené, mais le premier du Skyranger, c'est environ 400 pages de... C'est calcul de toutes les pièces. C'est un peu comme un avion, bon, c'est moins poussé évidemment, mais tous les éléments principaux sont étudiés et calculés au niveau de résistance qu'on demande. Un tube de bord d'attaque, il faut, ou une aile, il faut qu'elle tienne ce qu'on appelle 4G élastique, c'est-à-dire 4 fois le poids de la machine en charge, disait Michel, si on prend 450 kg pour un ULM. Ça fait donc 4 fois 450 d'aller 1700, 1800, voilà, c'est ça. Et il faut, on charge, après avoir fait donc le dossier de calcul où toutes les pièces sont étudiées avec ordinateur ou pas ordinateur, donc ça le premier dossier, ensuite il y a les essais statiques, c'est-à-dire on va prouver par les essais statiques, c'est-à-dire en chargeant l'appareil avec des sacs de sable, avec... des sacs des fois de plomb aussi, ou de tout ce qu'on trouve, on va tester, enfin vérifier que tout ce qu'on a calculé sur le plan de, dans la réalité quand on charge, effectivement résiste au niveau sur lequel on a fixé les limites. Pour l'exemple d'un Sky ou d'un ULM, quand on voit la structure, c'est extrêmement simple. Pour donner une idée, les derniers tests qu'on fait, par exemple, sur les ailes, on a chargé pratiquement à 3 tonnes, c'est-à-dire c'est pratiquement le poids d'un camion, vous voyez ce que je veux dire, d'un VL, là, 3 tonnes, 3 tonnes et demie. Et sur un Sky, on tient à 6G sans déformation. C'est-à-dire que quand on redémonte, on prouve qu'il n'y a aucune pièce qui a été déformée. Bon, la réglementation, c'est 4G. Et 6G, c'est-à-dire quand on monte à 6G, c'est 6 fois le poids de la machine. Ça, c'est l'extrême. Il faut que l'appareil, quand on fait l'essai statique, qu'on charge à 6G, c'est-à-dire 6 fois le poids de la machine, l'appareil tienne 3 secondes sans casser. Alors là, on tremble chaque fois. Nous, c'est assez simple, parce que si jamais, quand on teste une aile, c'est jamais arrivé sur un Sky, heureusement, mais sur des appareils en composite, par exemple, ou des appareils en technologie classique aluminium rivé, quand ça casse, automatiquement, ça coûte cher. Nous, on a juste quelques tubes à changer, etc. Mais les 3 secondes, à chaque fois, c'est assez tendu et effrayant, quoi, parce que, bon, c'est en général sur un test, uniquement sur les ailes, par exemple, sur les... Enfin, nous, je doute que tous les constructeurs fassent tous les tests. Nous, on fait les tests avec les Anglais. Pourquoi ? Parce que quand on fait les tests avec les Anglais, on a tous les dossiers qui sont déjà faits en langue anglaise. Et ça nous... Le dossier, on peut le présenter, il nous sert pour l'Australie, il nous sert pour la Nouvelle-Zélande, déjà tout l'ancien Commonwealth. Donc ça nous ouvre les portes. Même les Allemands reconnaissent, acceptent les dossiers. Je ne rentre pas dans les détails de Beccaris et compagnie. Acceptent ce type de dossier. Au niveau des Allemands, oui, donc je l'ai dit, ils reconnaissent ces dossiers-là. Donc ensuite, ce dossier-là, il part dans tous les pays et pour avoir évidemment les papiers d'homologation qu'on appelle et de certification. C'est-à-dire c'est les papiers qui vont nous permettre d'avoir les autorisations, enfin, l'équivalent des cartes grises pour les voitures, nous les cartes jaunes en France, donc chaque pays a ses. Qui va permettre à l'acquéreur de l'appareil d'avoir ses papiers pour aller voler. Il y a le troisième volet, oui, des tests de l'appareil qui est très important. Donc le premier, je l'ai dit, le dossier de calcul. Deuxième, c'est les essais statiques. Donc sur tous les éléments essentiels. Le troisième volet, c'est la partie essais et tests en bol. Bon, Michel, tu aurais pu en parler peut-être. Parce que moi, je l'ai fait sur la première version du Sky, donc 94. Après, quand il y a eu aussi des variations avec bon, des ailes allongées, etc. Mais actuellement, le niveau des essais en vol est relativement complexe parce que avec justement, on travaille avec les Anglais. Un dossier en vol, c'est pareil, c'est un dossier qui est comme ça. Il faut que tout soit enregistré. Il y a même les vidéos avec tous les paramètres des instruments lors de toutes les configurations de test sont prises. Voilà, bon, ce sont des dossiers qui aujourd'hui coûtent relativement cher. C'était face à un dossier pour une homologation ULM dans les premières générations en 1993, quand on a fait le premier Sky, c'était relativement simple. Aujourd'hui, ça se complexifie un peu. Les aviations civiles de chaque pays ont de plus en plus de temps et d'exigences, je veux dire, sur les dossiers ULM. L'ULM des années d'il y a 20 ans n'est plus du tout l'ULM des années d'aujourd'hui. Aujourd'hui, un dossier d'ULM, on est loin d'une certification, je veux dire, d'un type avion, mais c'est quand même un dossier qui est relativement complet et bien ficelé, quoi. Et qui demande beaucoup de travail, qui demande aussi... qui coûte relativement cher. Le dernier qu'on a fait, nous, sur le Ninja... entre essais, donc le dossier RDM, le dossier essais statique et le dossier essais en vol, et encore en se faisant beaucoup de choses avec les Anglais, c'est de l'ordre de 50 000 euros. Et c'est pas très cher, parce que, Michel, tu vas nous dire, un dossier sur le CT, la version ELA, eux, ils sont à 1 million d'euros. Quoi. Ouais. Voilà pour ce qui est donc du dossier technique en tant que tel. À partir de là, quand on a tous ces dossiers, on envoie, bon, par exemple pour la France, on envoie ce dossier-là à Paris, à la DGAC, donc la Direction Générale de l'Aviation Civile. Jusqu'à présent, c'était, et ça reste toujours déclaratif en France, ça c'est dans les... C'est-à-dire qu'ils regardent la forme du dossier, c'est-à-dire que tous les paragraphes, les exigences réglementaires de la loi, tous les paragraphes soient remplis. Mais ils ne regardaient pas le contenu. Là, maintenant, ils commencent à regarder le contenu. Mais c'est tout récent, hein, ces dernières années. C'est l'aspect déclaratif de l'ULM qu'on a en France. Là, je reviens sur la partie française. Qui faisait que, peut-être on ne devrait pas le dire, il y a des appareils, des fois, qui rentrent de certains pays de l'Est ou autre, où le dossier est déposé, c'est vrai, et il correspond, bon, toutes les demandes de la loi sont remplies, mais les ingénieurs de l'aviation civile ne regardent pas le contenu. Ils ouvrent le contenu uniquement s'il y a un accident ou si l'appareil est mis en cause. Heureusement, il n'y en a pas énormément. Mais nous, sur le dernier, la partie, par exemple, remorqueur de planeur, sur la version Ninja remorqueur de planeur, là, il y a 2 ans, ils regardent vraiment, ils rentrent dans le dossier lui-même, c'est plus vraiment du déclaratif aujourd'hui. C'est-à-dire que le dossier, on se rapproche de plus en plus de l'aviation traditionnelle. Quoi. Voilà. Donc une fois que le dossier est accepté au niveau de la DGAC en France, comment ça se passe? Et tout simplement, ils nous donnent l'équivalent, des cartes grises pour les voitures, ce qu'on appelle les fiches d'identification, quoi, qui permettent donc, nous, le constructeur, on va donner à l'acquéreur de l'appareil et qui va lui permettre d'avoir sa fiche jaune en France, ça s'appelle, c'est-à-dire son certificat d'immatriculation. Voilà. Sur l'histoire du Sky, que dire? Bon, industriel, moi je ne suis pas industriel, je le répète, puisque le Sky, moi j'ai toujours cédé, ça a toujours été fait en sous-traitance. L'histoire du Sky, ça a été fait en sous-traitance de fin 93, début 94 à 1999 par une entreprise qui s'appelait Synergie dans le nord de la France, qui faisait aussi des ULM pendulaires, et donc qui ont pris, je leur ai cédé les plans avec des petites royalties, puisque moi je travaillais dans d'autres entreprises, et qui ont fabriqué l'appareil. Et de suite, la première année, l'appareil a relativement bien marché, puisque la première année, ils en ont vendu pratiquement 70 fois. Ils ont fabriqué pendant 8 ans, et ensuite, bon, pour diverses raisons, que c'est toujours... C'est délicat d'en parler parce que ça a été un problème avec, au niveau syndical, etc. Alors que l'entreprise marchait bien. L'entreprise a été arrêtée et moi j'avais rencontré sur des salons des Ukrainiens. Et j'ai dit la seule façon c'est peut-être pour rester compétitif sur le marché, d'essayer de fabriquer plus dans les pays de l'Est une partie des appareils. Et donc c'est bon, l'entreprise Aeros qui a repris les fabrications fin 99, début 2000, où moi j'ai créé la société Bestov pour faire pour reprendre tout l'aspect commercial. Alors comment ça se passait avec eux? Bon, c'est tout simple. La plupart des matériaux, alors là aussi, la différence, je ne sais pas Michel, tu l'as évoqué tout à l'heure peut-être, entre un ULM et un avion, tu as parlé des bougies, c'est que sur un ULM, on n'a pas obligation d'avoir la totalité des matériaux, ce qu'on appelle certifiés aéronautiques. C'est-à-dire où toutes les pièces soient 100% estampillées, contrôlées, passées au rayon, etc. etc. Alors, bon, nous, dans les faits, les pièces essentielles de sécurité, c'est-à-dire les tubes, enfin, ou les longerons, les tubes principaux sont de qualité aéronautique, c'est-à-dire sont contrôlés, enfin, courant de Foucault, enfin, cric, etc. La boulonnerie principale est de qualité aéronautique également. Après, des pièces secondaires où il y a peu de contraintes, on utilise des matériaux bon, de fournisseurs connus, de bonne qualité évidemment, sur lesquels on a des lots de traçabilité quand même, mais la pièce en elle-même n'est pas contrôlée. Vous voyez, c'est la différence entre l'ULM et l'avion. L'ULM, la totalité des pièces n'est pas contrôlée, n'est pas de qualité aéronautique. Alors maintenant, sur les versions aussi plus évoluées, en composite, etc., je ne sais pas exactement comment ça se passe au niveau des contrôles, mais c'est une différence essentielle entre l'ULM et l'avion. Voilà. Enfin, pour nous, en ce qui nous concerne, tout ce qui est pièces principales, disons vitales, etc., sont de qualité aéronautique. Voilà.
Si vous voulez, on peut passer après aux questions.
Oui, je ne sais pas s'il y a des questions, allez-y.
Des questions à poser.
Pardon ?
Pour avoir le mécano, ça coûte combien ?
Kit de base de Sky Ranger aujourd'hui,
c'est... Oui, ça passe.
Ça va pas passer. Oui. C'est de l'ordre de 15 000 à 16 000 euros environ.
Attention,
c'est sans le moteur,
sans
les instruments, sans l'hélice.
L'appareil
Sky Ranger
monté,
ça passera. Passe mal.
Ouais. Un Sky Ranger monté, clé en main, aujourd'hui, on est de l'ordre en version de base avec des instruments, c'est-à-dire basique, analogique, un peu moins de 40 000 euros. On peut avoir un appareil, voilà. Le Ninja, on est le Ninja qui est un peu plus évolué, on est de l'or légèrement en dessous de 50 000 euros. Ça reste cher. On se retrouve dans les proportions un peu des gros avions type Airbus. C'est pratiquement la moitié, c'est le prix de la cellule, la moitié, enfin pas tout à fait la moitié, le moteur, et après les instruments, suivant comment les instruments, la radio, le transpondeur dont parle Michel, ça monte très très vite en prix. Ça dépend de l'équipement qu'on va mettre ensuite au niveau des instruments. Mais pour ce qui est C'est ouais, 15-16 000 euros la cellule et le moteur 912 de base, 80 chevaux, c'est aussi dans cet ordre de prix-là. Donc moitié prix, c'est la cellule et moitié prix, c'est le moteur. Et après, c'est ce qu'on va mettre en instrument, en équipement, les casques, les écouteurs, etc. Voilà. Ça reste dans les moins chers du marché. Parce que, oui, au niveau du montage, bon, si vous le montez, évidemment, ça vous coûte le temps que vous allez y passer. Il faut compter déjà avec quelqu'un qui s'y connaît un peu au niveau enfin, dextérité, bricolage, mécanique, etc. 300 heures à peu près. Quoi. Ouais. C'est-à-dire, en général, ouais. Alors on a deux mois, ouais. Disons deux mois à deux, vous partez. Ça peut se faire en un mois ou deux. On a beaucoup d'exemples, des gens... Non, mais même sans mécano, deux mois à deux avec quelqu'un qui s'y connaît, ils arrivent à mettre l'appareil en bois. Après, on a quelques gars qui connaissent, Daniel, etc., où ils ont fait des montages bon, partout, en Chine ou autre, ou en 15 jours sur la Chine. Avec deux mécanos, vous avez mis pratiquement trois appareils en vol, quoi, sur 15 jours. Les appareils sont prémontés, c'est-à-dire que tous les tubes arrivent, sinon bon, on avait le temps limité. Dans les kits, les tubes arrivent déjà, ils sont prémontés, c'est-à-dire il y a les câbles sont déjà enroulés, il y a les boulons qui sont déjà avec l'écrou vissé dessus. Donc ce qu'on appelle la cellule est relativement montée rapidement, c'est-à-dire deux personnes qui s'y connaissent un peu. Dans la semaine, l'appareil est pratiquement ce qu'on appelle en croix dans le jargon. C'est-à-dire que bon, les ailes sont montées, les empennages ont monté, etc. Donc on a l'impression que ça va très très vite. C'est après que ça se gâte quand on commence à attaquer le moteur, tous les branchements, l'électricité et les finitions. Les finitions, les portes, etc. C'est relativement long à faire.
Oui, je vais quitter la technique peut-être, mais quelle est la différence de sensation sur ce type d'appareil et avec un ULM 3 pas, comme on dit, à l'ancienne façon? Quelle est la différence pour ceux qui l'ont pratiqué, moi je ne suis pas monté, au niveau de la sensation physique ou du plaisir
entre
ce type d'appareil.
Au niveau du pilotage?
Oui.
Et quel type d'appareil? Quel type d'appareil? Quel autre type? Ah non, ça n'a absolument. Enfin, si on compare par rapport au pendulaire, ça n'a absolument rien à voir. Ce type d'appareil se pilote comme un avion traditionnel, Cessna, Tobago, Robin, des R400. Il y a un manche, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle un trois axes, il y a deux axes sur le manche, et au palonnier la direction, alors que le pendulaire, on a uniquement c'est un trapèze au niveau du pilotage, ça n'a absolument rien à voir. Hein. Et en plus, c'est des formations bien différentes. Au niveau instruction, vous allez apprendre avec un instructeur, évidemment, si vous voulez faire du pendulaire sur un pendulaire, et vous allez apprendre, évidemment, avec un instructeur 3 axes, si vous voulez faire du 3 axes. Maintenant, au niveau du pilotage, un Skyranger, bon, par rapport aux anciennes générations d'ULM, type, je pense, c'est Quicksilver, pour ceux qui connaissent, Widowper, on se rapproche déjà plus des sensations du pilotage traditionnel d'un avion d'aéroclub. Bien que ce soit quand même beaucoup plus sensible. La sensibilité, elle est due au fait que l'appareil est très léger. Nous, sur un Sky, l'appareil, si je prends le Skyranger, même aujourd'hui, alors nous, on essaie de se tenir dans la réglementation au niveau des poids, mais les Anglais qui sont très stricts sur les poids, c'est-à-dire si un appareil dépasse, il ne sera pas homologué en Angleterre. Vous prenez la liste des appareils qui sont homologués en Angleterre, c'est ceux qui répondent strictement au niveau des poids, au niveau des ULM, dans la réglementation des pays, l'Allemagne, les principaux, Allemagne, France, Angleterre actuellement. Donc c'est lié au fait que l'appareil est relativement léger, donc un Skyranger à vide aujourd'hui, même avec un 912, on est à moins de... On est à moins de 260 kg s'il est monté en version de base. Voilà. Donc ça reste des appareils qui sont relativement sensibles, évidemment, aux conditions aérologiques. et qui, évidemment, il n'y a pas de l'inertie comme sur un appareil qui fait 600 kg ou 900 kg. Donc ça se pilote. Un ULM se pilote plus que... Hein, Michel, tu peux en parler là-dessus plus que moi, je pense. Hein. La différence entre le pilotage d'un ULM enfin, de ce type-là... Toi, tu es dans des ULM un peu plus évolués, qui sont un peu plus lourds, qui se rapprochent encore. Ouais. Mais un Sky, le Ninja, bon, il est un poil plus lourd. Ce sont des appareils qui demandent un minimum, c'est 20 heures de vol avant d'être lâché. Quoi. Je ne sais pas, même les lâchés actuels, c'est combien en moyenne, j'ai plus de... Ouais, c'est très variable.
Une question de détail, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Mais c'est à propos des essais statiques. Vous aviez dit que j'ai cru comprendre 4 fois le poids.
Alors, la réglementation. Pour simplifier, il faut prouver que la majorité des éléments de l'appareil, je pense aux ailes, et après derrière c'est un peu plus compliqué au niveau de la queue, c'est-à-dire de la profondeur, etc. Il faut prouver que en limite élastique, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucune déformation, une fois qu'on a fait le test, qu'on a chargé, on charge, donc on pend l'appareil, on le charge avec des sacs, et on applique 4 fois la masse.
Voilà, c'est ça,
4G. On redémonte après le test. Et donc là, on peut laisser demi-heure, une heure, deux heures, ça peut y rester. Voilà. On redémonte systématiquement. Tout à l'heure, quand on est avec les ingénieurs ou allemands ou anglais, on redémonte. Ils regardent que tous les boulons, tous les câbles n'ont pas été allongés, que les tubes n'ont pas été déformés. Il faut prouver. C'est la limite élastique de l'appareil, c'est-à-dire il va se déformer, mais il revient à sa forme initiale sans déformation. Voilà, c'est la règle. Je pense que sur la...
Pardon. Vous avez parlé de 6G après.
Alors 6G, après, on a après, une fois qu'on a fait le test à 4G, on fait le test à 6G. C'est-à-dire que là, on monte la charge. Et là, il faut que ça tienne 3 secondes sans casser. Voilà.
C'est une obligation aussi.
C'est une obligation. On peut casser à 6G. On peut casser, mais il faut que ça tienne 3 secondes. Donc, là, on est des vidéos, je pourrais vous en montrer. C'est toujours...
Simplement, une petite remarque. Pour un pilote standard, arriver déjà à 6G... C'est quasiment impossible.
Oui, tout à fait.
Pour donner un exemple, la théorie veut que quand on est incliné à 60 degrés, c'est pas mal, quand on fait un virage stabilisé, on prend 2G. Okay. Un avion de voltige, il est homologué pour 6G. Quand on fait ce qu'on appelle la boucle, le looping,
tu es 6G élastique, tu es 9G rupture, c'est ça?
Ça, c'est 9G rupture, mais dans ce genre de figure, on prend 4G. Maximum, voire 3. Moi, j'ai fait faire des baptêmes parce que j'étais instructeur voltige à des personnes âgées et j'ai dû passer une boucle avec une mamie qui avait 95 ou je ne sais pas combien. J'ai cru qu'elle allait lâcher dans le bol, mais elle a dit avant de mourir, j'ai fait une espèce de fausse boucle, c'est-à-dire qu'on monte comme ça, très doux, et on le laisse basculer. De façon à ne prendre que 2G. Donc on peut faire des boucles à 2G.
Tout à fait.
Ça n'a plus rien d'une boucle, c'est ce qu'on appelle une patate en termes d'informatique. C'est comme une virgule, et la personne était ravie. On peut faire des tonneaux, on peut faire le truc à l'envers sans prendre aucune accélération. Tout ça pour dire que c'est le pilote
tout à
qui
fait.
Va acquérir cette dextérité et que 2G, c'est déjà pas mal. Après, il y a le problème des rafales, de tenue, des. Quand il y a des turbulences.
Oui, mais même là, c'est enfin, je veux dire, c'est vraiment extrême.
Mais 6G, c'est énorme.
Ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'en ULM, la voltige est interdite. ça, c'est la théorie. Mais là, on a des vidéos qu'on ne montre pas, avec des Sky, où ils sont à dedans, où on en a, où c'est des boucles en permanence qui passent. Vous voyez ce que je veux dire, dans des conditions aux États-Unis, en Islande, on en a un peu partout. Je veux dire, c'est qu'un ULM, il passe, enfin, des figures, on parle de la boucle, hein, voilà. On en a même en tonneau, bon, ça se passe. Bon, c'est là c'est le pilote, c'est vrai qu'il fait la différence. Ça peut se faire. Voilà.
Et au point de vue fréquence des accidents, c'est un peu d'accidents. Est-ce que les accidents sont la plupart du temps à quelle
pour avant de parler des accidents, juste pour la partie, on avait fait une étude intéressante avec. C'était Super Héros. Où on avait mis des jauges, c'est-à-dire bon, c'est des éléments qui mesurent les efforts à différents endroits de l'appareil. Et là, on s'est aperçu sur le Sky, c'était à Saint-Dié-les-Lavoirs là où un appareil a tourné pendant un moment avec les jauges où ils ont pris tout un. Et d'après vous, où est-ce que l'appareil il fatigue le plus? C'est au roulage au sol. Et là, il s'en doutait un peu, mais la plupart des ULM sont sur des pistes souvent qui sont dans des conditions qui ne sont pas. C'est pas l'asphalte comme l'autoroute. Bon, il y a des trous, ça dépend de la saison, ça dépend de. Et c'est là où on atteignait des 4G en pic plusieurs fois. Uniquement au niveau des roulages, mais c'était vraiment instantané quoi. C'est vraiment c'est sur un trou les appareils de, ça fait un choc qui est vraiment violent, voilà, et qui se répète souvent, et souvent c'est sur les roulages où les appareils fatiguent le plus. Voilà. Enfin nous ça avait été assez instructif là-dessus. Et là encore aujourd'hui, moi j'avais au Ghana, ils ont Ninja, ils font du traitement agricole avec. Donc là aussi, normalement, on est à donc nous 470 kg. Là, ils sont à 600 kg en permanence, chargés avec des liquides, les rampes, etc. Et les cycles sont, je ne me souviens plus, c'est un quart d'heure, etc. quoi. Là, il y a un appareil, là, il a, je crois, 6000 heures et je ne sais pas combien d'atterrissages. Enfin, bon, mais ça prouve que quand même, bon, il y a des. Ça reste quand même relativement récent. Les ULM, dû à ces pistes-là, pour ceux qui tournent en école, je veux dire, ça prouve que c'est des appareils relativement résistants quand même. Parce que ceux qui sont en tour de piste, c'est sans arrêt, je veux dire, décollage, atterrissage, l'appareil qui travaille, etc. C'est, voilà. Au niveau de l'accidentologie, alors, jusqu'à présent, moi je suis pas de la fédération, je n'ai pas les chiffres. Jusqu'à il y a 2 ans, on était. Alors, c'est difficile à évaluer parce que. En ULM, les heures de vol ne sont pas répertoriées systématiquement, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est difficile de faire une comparaison avec l'aviation traditionnelle. Et on partait du principe que, bon, on était dans des ratios peut-être un peu plus élevés, mais pas beaucoup plus. Quoi. Il y a eu une exception l'an dernier, où statistiquement, il y a eu pas mal d'accidents l'an dernier. Mais alors là, et Michel, enfin, les instructeurs, s'il y en a, peuvent en parler. Dans 98-19% des cas, ce sont ce qu'on appelle les facteurs humains. C'est-à-dire que c'est une faute du pilote ou de la personne qui est à côté. Aujourd'hui, les appareils qui sont sur le marché sont fiables. Fiables, voilà. Après, le problème, c'est que peut-être des fois, on passe à certaines limites. Je ne sais pas si au niveau de l'accidentologie, quelqu'un veut rajouter quelque chose, j'ai pas.
Bah si, parce que je suis du club de Saint-Giron avec Pierre. On a constaté, il y a ce qu'on appelle dans l'UM un REX, un retour d'expérience, on a constaté que les derniers accidents, c'était des gens qui n'étaient pas dans la plaque parce que justement la réglementation ne nous oblige pas, comme les avions, à avoir un minimum d'heures de vol par an, à être dans des contraintes. Et les deux dernières personnes dans mes souvenirs qui avaient eu un accident, c'est des personnes relativement âgé, mais peu importe, qui n'avaient pas fait d'ULM depuis plusieurs mois, voire depuis un an et demi, qui se sont mis dans des situations où ils n'ont pas contrôlé. Voilà.
Donc, je ne sais pas si je rejoins ce que je veux dire, mais c'est le facteur humain. Ouais. C'est le facteur humain qui est essentiellement nous a posé problème. Mais et c'est vrai que les gens qui sont des clubs du LM, on est particulièrement vigilants et la fédération nous insiste sur les retours d'expérience pour qu'on les vise. On sache ce qui s'est passé, ce qu'il ne faut pas faire. Alors c'est vrai que ce n'est pas de la certification, mais on est quand même pratiquement sérieux.
Ce que je peux rajouter, c'est qu'à Saint-Girons, par exemple, nous devons effectuer au moins un atterrissage dans les 3 mois qui précèdent le moment du vol.
Ça, c'est le club
qui l'exige. Ce qui fait que si on n'a pas cette norme-là, de reprendre un instructeur pour nous remettre en scène, disons, au bout de 91 jours. Quoi.
Mais c'est loin d'être le cas dans beaucoup de...
Oui, oui. Mais à Saint-Girons, c'était...
Le problème de l'an dernier, alors là, c'est pareil, je vais pas avancer. Ce que vous évoquez, c'est vrai. C'est vrai pour le particulier, mais il y a eu le cas pour les instructeurs aussi. Des instructeurs qui volent très peu. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là où ça discute actuellement au niveau de l'aviation civile. Sur l'expérience
juste
des instructeurs.
Ça me fait penser à un truc que j'ai oublié, mais qui est hyper important. On a beaucoup de personnes d'un certain âge qui viennent à l'ULM. Pourquoi? Parce que, déjà, il y a le prix, mais surtout, dans l'aviation, on a une visite médicale obligatoire. Tous les 2 ans ou tous les ans, en fonction de l'âge, on doit passer un contrôle médical chez un, ou même 6 mois, chez un médecin spécialisé aéronautique. Or, aujourd'hui, à l'ULM, on n'est pas obligé de passer une visite médicale. Donc, je connais, j'ai eu malheureusement un cas où des gens ont des problèmes cardiaques, comme des spermes, ont des produits, des machins, et ils font de l'ULM parce qu'il n'y a pas de contrôle. On a vendu, là où je bosse, là, donc, un ULM à une personne qui avait 84 ou 85 ans, qui a commencé à me dire, moi je sais tout faire, ici et là. Il m'a expliqué comment il fallait piloter la machine qu'il venait d'acheter, 120 000 euros, le chèque, il n'a même pas essayé. Le jour où je lui ai fait essayer, il a été se plaindre à mon ex-patron en disant, c'est pas ça que je veux voir, moi je sais piloter. Bon, ok. Je lui ai fait faire sa technique, évidemment. Ça n'a pas marché. J'ai dit, maintenant, je vais vous montrer comment il faut faire. Bref, il a 5 heures de formation quand devant une machine neuve. Au bout de 3 heures, il est parti tout seul, profitant que je n'étais pas dans le coin. Il a pris un autre pilote, il a été amené sa machine là-bas dans le Gers. Au premier décollage, ce mec-là, il s'est tué. Bon. Il n'avait ni les capacités, ni le... Il a eu certainement un malaise. S'il avait quelqu'un à côté, le malaise, quelqu'un l'aurait rattrapé. Donc tout ça pour dire qu'il y a des gens qui viennent aussi dans l'ULM et qui peut-être créent des accidents parce qu'ils n'ont pas la santé, on va dire, pour faire.
Tout à fait.
Ça c'est une question, c'est une question de club. Les instructeurs et les clubs, on les détecte quand même.
Oui, mais votre chéquier, elle est dans un...
Mais c'est vrai que quand ils sont pas
individuels... Et nous, chez nous, là, on vient, on paye, on n'est pas dans un club. Hein. Après, ce que vous faites, on ne sait pas.
C'est vrai.
Alors qu'un privé, en avion, il est obligé, tous les 2 ans, de justifier 1 heure avec un instructeur. C'est obligatoire. C'est ce qu'on devrait faire aussi en automobile. Parce que...
Non, mais c'est bien de...
Un permis, ça fait 60, je ne sais plus combien d'années. Les panneaux, si on contrôlait aussi un peu, ça serait peut-être pas plus mal. Mais là,
c'est vrai que c'est... Il n'y a pas d'exigence réglementaire en ULM à ce niveau-là. Et que ça va peut-être changer.
Oui, parce qu'on a tous un peu peur que ça se fasse quelque part arrêter cette activité.
On sera bien malheureux. Si on prouve qu'il y a une hécatombe, je sais pas, on va dire un chiffre. En gros, il y a à peu près 20 morts par an à ULM. C'est la moyenne qu'on a par jour en automobile. Hein. C'est peut-être
plus que ça. Statistiquement, ce n'est pas le même nombre de...
Bon, peut-être moins de kilomètres. Mais je veux dire que ce n'est pas plus dangereux de rouler ou de conduire une voiture. C'est-à-dire qu'on ne prend plus de risques, nous, en venant tous ici. On se croise sans arrêt. Aujourd'hui, combien vous avez de gens qui sont en train de bricoler leur truc et qui vous arrivent dessus? Bon, ça m'arrive fréquemment de voir des gens qui voilà, sont en train de pianoter. Incroyable.
Il faut dire qu'en ULM, encore aujourd'hui, on bénéficie, des arrêtés de 98 qu'on appelle les autres, qui donnaient énormément de liberté à ce mouvement-là. Et aujourd'hui, on en voit les limites. Donc, vous les avez là maintenant, vous en avez entendu parler. Oui, enfin maintenant.
Les gens, s'ils commencent à y avoir des morts, ils vont durcir les règlements.
Ils sont en train d'analyser la chose. Voilà.
Monsieur Philippe, on va parler des paramoteurs maintenant, oui. si vous voulez. Après, il y aura peut-être des questions.
On va parler des paramoteurs. Puis ensuite, les gens, s'ils veulent poser des questions, pourront profiter du repas partagé pour le faire.
Voyons voir pour le paramoteur, combien de temps il nous faut.
Ça dépend combien de temps vous avez.
5-10
minutes. Waouh, c'est sympa. Donc le paramoteur, pour vite fait expliquer ce que c'est l'association d'un parapente, une voile qui ressemble à un parachute, parapente que vous envoyez souvent sur les Pyrénées, et vous y rajoutez un moteur. Ça fait un paramoteur. Parce qu'on a un moteur, on fait partie des classes ULM, des ultralégers motorisés. Par contre, on est énormément différent de toutes les autres classes ULM. Quelles sont les différences? Il y a 6 classes, on l'a dit. Vous avez la classe 1 qui est le paramoteur, donc je suis pilote instructeur. Je suis sur le club au Fousseré. Et vous avez ensuite le pendulaire, l'aile pointue, l'aile delta plane. Vous avez le 3 axes, le multi-axe dont on a parlé, le Skyranger notamment. Vous avez l'autogire ou l'aile tête vue, ça ressemble à un hélicoptère, mais ce n'est pas un hélicoptère, attention, il y a une grosse différence. Vous avez l'hélicoptère et vous avez l'aérostat, le ballon, qui n'est pas une montgolfière. Qui ressemble à une montgolfière, qui est une montgolfière, mais avec un moteur dans le dos aussi. Mais on en voit très peu en France. Alors, il faut comprendre ce que c'est qu'un ULM. Souvent, l'ULM, de suite, on voit qu'un seul appareil, genre avion, voilà. Il y a vraiment 6 classes. Hein. Le paramoteur, la particularité, c'est que ce n'est pas un aéronef qui a une seule structure. C'est un parachute, c'est-à-dire que le pilote est distant de sa voile. Donc, en fait, déjà, au niveau sécurité, c'est un tout autre domaine. C'est un parachute, donc il descend droit, mais dirigeable, il va progresser, il pourra être dirigé en virage et en progression, en avançant et en se posant à très faible vitesse. Il y a beaucoup de caractéristiques différentes de n'importe quelle autre classe ULM. On va difficilement décrocher lorsqu'il n'y a pas de moteur, par exemple. Il faut savoir qu'un ULM, contrairement à un avion, ce sont des aéronefs autorisés à poser moteur coupé, du fait de leur légèreté et leur capacité. Tous les ULM ont besoin d'une vitesse, on vous l'a dit tout à l'heure, minimale pour pouvoir poser en toute sécurité sans risquer de décrocher. Un paramoteur, non. Un paramoteur, moteur coupé, vous ne touchez à rien, vous laissez faire. Ça ne peut pas décrocher. Vous avez une vitesse stable, maintenue, fixée par votre aile, et ça descend à en moyenne 40 km/h. Ça ne volera pas plus vite. On peut plus ou moins modifier 40-50 km/h en fonction des structures de l'aile. On n'a pas non plus ce qu'on appelle, on n'en a pas parlé, la VNE, la vitesse à ne pas dépasser. Qu'est-ce que c'est? Tout aéronef qui tombe en panne, s'il pique du nez, de sa masse, la traction fait qu'il va accélérer, prendre la vitesse. Et sa structure métallique, elle peut partir en morceaux, pas avec un parapente. Un paramoteur, c'est toujours en équilibre, c'est un pendule. Donc en fait, il ne peut pas tomber et prendre de la vitesse en accélération. Il y a beaucoup de différences, voilà. Et jusqu'à présent, le paramoteur, c'est considéré, trop souvent, très peu connu déjà, est considéré un peu comme le vilain petit canard. Pourquoi? Parce que c'est un parapente, c'est du vol libre. Donc pour décoller, il n'a pas besoin d'une base. Il n'a pas besoin de 400 mètres. À pied, on va décoller sur 5-6 mètres. On n'a pas besoin d'une piste. On décolle n'importe où, comme on veut, d'un terrain, d'un champ, en respectant bien sûr la réglementation ULM. Mais c'est le seul aéronef qui offre encore une liberté de décollage, de poser où on veut. Bien sûr, comme on l'a dit, il y a un minimum de réglementation. Vous pouvez décoller d'un terrain, si vous êtes propriétaire de ce terrain. Et sinon, au moins en demandant l'autorisation du propriétaire. Mais ça suffit. Après, vous faites ce que vous voulez, comme vous voulez, où vous voulez. Ça se démonte en 10 minutes dans le coffre d'une voiture. Vous le transportez, vous allez voyager où vous voulez, vous le remontez en 10 minutes et vous vous décollez. Voilà. C'est fondamentalement différent des autres classes ULM. Donc, plusieurs façons de le pratiquer. Soit avec un moteur sur le dos, comme un vulgaire sac à dos. D'accord ? Vous allez porter en moyenne 25 kg. Et le moteur sera plus ou moins gros en fonction du poids du pilote. Et puis, la surface de l'aile va se choisir aussi plus ou moins grande en fonction du poids transporté. Donc un pilote, moi je fais 65 kg, je vole avec une voile qui fait 20 mètres carrés en gros, et un moteur qui pèse tout juste 20 kg. Un petit moteur, ce sont des moteurs de temps, 80 cm cubes pour le plus petit, qui va procurer une cinquantaine de kilos de poussée. Donc le kilo en poussée, on parle en fonction de l'hélice, qui va permettre à faire avancer un peu tout l'équipement et vous permettre de décoller. Voilà. Et puis pour ceux qui n'arrivent pas à porter ça sur le dos, on a ce qu'on appelle des trikes, des chariots à trois roues,
sur lequel on va être confortablement installé, et puis on va juste gonfler son aile et décoller. Et alors en parlant de gonfler l'aile, c'est toute la différence avec les autres aéronefs, c'est que tous les autres aéronefs ont déjà l'aile construite. Ils ont juste à rouler, à s'élancer. Nous, non. L'aile, il faut la construire. Donc vous allez apprendre en formation une technique qui va vous permettre de gonfler, d'amener votre aile au-dessus de la tête. Et une fois que le parapente s'est gonflé, s'est rempli d'air, on va accélérer. Et c'est là, comme tout autre aéronef, en prenant de la vitesse, on a ce qu'on appelle les forces aérodynamiques qui vont s'appliquer sur la surface de l'aile, sur ce qu'on appelle l'extérieur, l'extrado et l'intrado. Et ça va créer donc une aspiration, ou ce qu'on appelle aussi une portance, il y a plusieurs termes utilisés, qui vont vous permettre de vous élever et d'aller voler. Et de la même façon, pour vous retenir et pour aller poser. Donc contrairement à ce qu'on croit souvent, j'ai entendu parler, pour se poser, est-ce que c'est difficile ? Eh bien, c'est beaucoup plus facile que de décoller. Le décollage est beaucoup plus dangereux, beaucoup plus difficile. Souvent, par un moteur, quand on entend parler de crash, c'est pas une fois qu'on est en l'air. Au contraire, on est beaucoup plus en sécurité en vol avec un paramoteur que lorsqu'on essaie de décoller. Parce qu'au décollage, vous allez un peu vite, vous ne savez pas tenir votre aile, vous partez dans tous les sens, on ballotte les bras. Voilà, il faut apprendre correctement à décoller proprement, donc avec une bonne formation. On n'est pas pilote paramoteur comme ça, qui veut. J'ai formé des parapentistes qui, eux, volent tous les jours, sautent depuis leur montagne avec une voile parapente. Vous ne voyez pas de différence avec un paramoteur. La voile ressemble énormément au paramoteur. Il y a très peu de différence. Bon, c'est facile. Je rajoute un moteur, j'accélère et je décolle. Non, c'est pas aussi simple que ça. Le parapente, il va utiliser une petite pente. Mais dès que vous êtes sur du plat et que vous portez un moteur, la technique est totalement différente. Et souvent, certains pensent pouvoir y arriver. Ils partent dans tous les sens. Ils se font avoir par la poussée dans le dos et qui peut déséquilibrer. Et puis, ils vont se cracher. Cracher, c'est un bien grand mot. Ils vont tomber, se casser la figure. Ils vont casser une hélice, une cage. Bon, ben, ça va coûter des sous. Mais il n'y a pas de vrais gros bobos. Les seuls accidents, on en a parlé, c'est très rare, surtout dans cette pratique-là, c'est ce qu'il y a de plus sûr, puisque n'importe quel pilote a un souci, il ne touche plus à rien. Il plane, il descend, tout droit, il se pose. Même s'il oublie de freiner à la fin, il se pose sur le cul, il se fait pas mal. Le chariot va amortir, il se fait pas mal. On va faire attention où on pose, bien sûr, on va éviter des lignes électriques, de ne pas voler sur l'eau. Posé dans l'eau, on va se noyer très facilement avec le poids de la machine sur le dos, pris dans les ficelles, c'est-à-dire les suspentes du parachute. Les forêts, pareil, on va s'empaler sur des arbres. Donc en formation, on apprend à respecter ce qu'on appelle un cône de sécurité, à rester à une distance en altitude suffisante en cas de panne pour pouvoir planer suffisamment longtemps et sortir du périmètre dangereux. Donc on va parler là de finesse d'un aéronef. Par exemple, nous les vols ont des finesses de 8. 8, ça veut dire quoi ? 1 km de hauteur va vous permettre de planer sans moteur pendant 8 km horizontalement. Vous avez le temps de voir et trouver un petit terrain. Tout pour poser un paramètre.
À condition qu'il n'y ait pas de vent.
On est d'accord, on parle de vent nul. Si on a du vent de face ou du vent arrière, on aura une vitesse par rapport au sol différente, plus rapide ou moins rapide. Mais voilà, mis à part ce critère-là, on va se poser en paramoteur, on va s'arrêter sur même pas 10 mètres, voire sur 5 mètres grand maximum. Et à pied, je me pose quasiment sur 2 mètres carrés. Au décollage, je décolle à moins de 10 mètres. Et avec un chariot, je décolle à moins de 20 mètres. En monoplage, je peux décoller en 10 mètres. Et dès qu'on a un peu de vent, on va toujours décoller face au vent et poser face au vent. Parce que la vitesse par rapport au sol va en s'en trouver diminuée pour poser plus facile. Et pour décoller, on va quitter le sol beaucoup plus rapidement. Voilà, ce sont toutes ces petites techniques-là qui permettent de voler aisément. Alors j'ai entendu parler aussi de l'âge. Ben, l'ULM se pratique à partir de 15 ans. Et après, il n'y a pas de limite d'âge. Hier encore, j'ai breveté un pilote, 79 ans, décollage au chariot. Voilà, très simplement. Le doyen en France a 92 ans au paramoteur. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Il suffit d'avoir une bonne formation, avoir une santé minimum correcte. Et comme on disait, l'aspect non obligatoire des certificats médicaux, ben non, c'est vrai, ce n'est pas obligatoire. Moi, vous venez vous former chez moi, je vais vous demander un certificat médical. Les formations, on le disait, sont libres aux instructeurs de donner un certain nombre d'heures de formation, de juger le besoin nécessaire pour former et faire une bonne formation. Ben, on est seul juge aussi de demander ou pas un certificat médical. Celui qui ne veut pas, il ne veut pas, mais moi, je ne prends pas son certificat médical parce que je vais m'assurer que cette personne n'a pas de problème de cœur au minimum et de ne pas risquer de s'évanouir en vol. Même si ce n'est pas dangereux, il peut se poser sur une ligne électrique et ne pas l'éviter. Voilà. Donc, en gros, oui.
Le bruit.
Alors, effectivement, c'est une question qu'on pose souvent. Le paramoteur est le plus silencieux de tous les aéronefs. Alors, je vais vous expliquer pourquoi on n'a pas cette tendance-là. Un paramoteur ne va pas très vite. C'est le plus lent de tous les aéronefs. Il vole à peine en moyenne à 40 km/h. Quand vous avez un aéronef de 40 km/h qui passe là, c'est long. Le bruit, il est long. Un avion, il passe, c'est très court. Mais il est plus bruyant. Bien que maintenant, il y a des appareils qui sont quand même très silencieux. Il y a des gros progrès qui ont été faits. On entend des appareils qui passent, qui sont très silencieux. Et les paramoteurs aussi. Parce que ce n'est pas que le moteur qui fait du bruit, contrairement à ce qu'on croit. Il y a aussi le brassement de l'air par l'hélice. Et aujourd'hui, les hélices, on utilise plus rarement du bois, mais du carbone, qui permet de réduire un peu ce qu'on appelle le pas, les angles des pales d'hélices, et donc d'avoir des brassements de l'air beaucoup moins bruyants, en fait. Et aujourd'hui, toutes les machines, notamment par moteur et autres machines, on a des normes imposées en termes de bruit, et on est largement en dessous des normes imposées, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc c'est un bruit plutôt dans la durée, mais un bruit propre, il n'est pas si bruyant que ça. Et puis on a des casques, hein, qui vont atténuer aussi un maximum le bruit, parce que vous l'avez quand même derrière, malgré tout. Donc sans casque, au bout d'un moment, une heure de vol, vous avez la tête comme ça, hein, sincèrement. Voilà, le gros avantage du paramoteur, où on se sent beaucoup plus en sécurité, c'est que c'est du parapente, avec le moteur. Donc une fois qu'on a pris l'altitude, on coupe le moteur, on plane, j'ai un démarreur électrique, boum, je relance ma machine, et je redécolle. Contrairement au parapente, où j'ai pas besoin de quelqu'un en bas avec une voiture, qui va me ramener en altitude. Et on peut voler de ce fait toute l'année. Et en dehors de ce qu'on appelle les courants chauds, dont les parapentistes utilisent pour rester en l'air. Donc je vais pouvoir voler toute l'année, du lever du jour au coucher du soleil, quand il n'y a pas de thermique, donc pas de turbulence. Donc le paramoteur se pratique vraiment dans les conditions les plus calmes, les plus... Parce que contrairement aux autres aéronefs, on n'ira pas voler avec un vent qui va dépasser les 15 km/h. C'est notre inconvénient. On est le plus lent, le plus léger. Donc on a des limites liées à l'aérologie quand même. Voilà, il faut le savoir. Mais c'est de la balade aérienne. Et vous avez le choix, le goût de chacun de choisir soit un aéronef type Skyranger pour faire des centaines de kilomètres de grande distance, ou un paramoteur pour voler sur 50, 100 km, surtout local. Après, vous mettez ça dans la voiture, nous on s'en va en Espagne, on file une semaine en hiver en Andalousie, on sort notre aéronef et on vole une semaine dans le désert, là, voilà. C'est une autre façon, une autre philosophie. Donc, on est ULM, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais c'est vraiment une classe un peu à part entière. Voilà, si vous avez des questions. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Rapidement, merci. Malheureusement, parce que le délai était court. Oui, j'espère que je n'ai pas été trop rapide.
Si vous voulez, les questions, je vous les poserai. Sauf Bernard qui termine toujours par une question.
Combien y a-t-il de pratiquants en France ?
Le paramoteur aujourd'hui, sachant que la Fédération française ULM, on n'a pas l'obligation d'être licencié. Donc tous les paramotoristes ou tous les ULMistes ne sont pas licenciés. Donc on ne peut répertorier que ceux qui sont licenciés. Aujourd'hui, le paramoteur est la deuxième, si ce n'est pas, je crois, la première classe la plus pratiquée de tous les ULM. C'est-à-dire que le paramoteur grossit de plus en plus. Pourquoi ? J'ai beaucoup de pilotes avions qui viennent me voir parce que c'est ce qu'il y a de moins cher. La matérielle, 10 000 euros, vous allez voir le moteur, neuf, et vous volez. La formation, 1 500 euros. Donc, et consommation, vous consommez 3 litres à l'heure. En entretien, ça coûte le vol, vous allez voler pour une dizaine d'euros de l'heure, même pas. L'entretien, c'est même pas 100 euros par an. Ça coûte rien. C'est très sûr pour ceux qui veulent voler en toute sécurité et faire des vols pépères au coucher du soleil sans prendre de risques. Voilà. Donc c'est de plus en plus pratiqué pour ces raisons-là. Mais il faut quand même une formation de qualité parce qu'on ne peut pas décoller si simplement. Et là, c'est 24 séances, c'est environ 75 heures consécutives qui vont être étalées, donc en fonction de la disponibilité de l'élève et de la météo. Parce que la pluie, on ne peut pas voler. Et un vent supérieur à 15 km/h, on ne peut pas voler. Voilà. Donc à partir de là, en 3 mois, avec 2 fois par semaine de pratique, en 3 mois, vous pouvez être breveté et devenir pilote autonome. Voilà. Et dernier petit truc, si je peux me permettre, tous les ULM doivent passer un théorique, un examen théorique, qui s'appelle le tronc commun, qui est commun à toutes les classes ULM. C'est le BABA de l'aéronautique. C'est un petit QCM de 40 questions, vous avez le droit à faire 10 fautes quand même. Donc avec des cours qui sont prodigués par les instructeurs, on y arrive assez facilement, quel que soit votre âge. La preuve, je forme des élèves de 15 ans jusqu'à 99 ans. Le plus vieux, 79, 92, ok, on va bientôt y arriver à 100 ans, vous allez voir. Croyez-moi. C'est tellement facile aujourd'hui, le matériel a tellement évolué, c'est très facile de gonfler, c'est très facile de décoller. Voilà, donc après, à chaque pratique, à chaque instructeur de vous former sur son appareil.
Merci.
Merci.
Bon, on va vous confier au repas partagé qui est dans la salle à côté. Mais il y a une chose qui est commune à tous ces intervenants, enfin que moi j'ai ressenti, c'est la passion par rapport à leur activité. Merci beaucoup.
On peut
peut mettre le micro là. Alors, 30 secondes, vous avez dit qu'il y aura le Tour de France ULM qui va passer à Muret. Alors, les dates, c'est 20, j'ai sur mon agenda, je vais vous le donner dans un petit instant. 4, 26.